aujourd'hui la masterclass de Daniel Buren avec Anaëlle Pijat.
Avec vous, Daniel Buren, cette nouvelle masterclass qui se déroule à l'occasion des journées Imagine, organisées par France Culture et le Centre Pompidou. Le Centre Pompidou où nous nous trouvons en ce moment même, dans un amphithéâtre nomade d'Olivier Vadreau, entouré d'une fresque de Philippe Lacquitte évoquant mai 68, le thème de ces journées Imagine. Le principe de ces masterclass consiste à s'interroger sur la manière dont les artistes construisent leurs œuvres. Nos invités nous livrent leur démarche et leur méthode de création depuis l'idée initiale jusqu'au moment où ils considèrent que ces œuvres sont achevées. Alors, avant de commencer, Daniel Buren, je me permets d'évoquer quelques éléments de votre parcours. Né en 1938 à Boulogne-Billancourt, vie et travail in situ, ainsi est formulée la biographie laconique qui apparaît dans vos catalogues. Il serait vain de tenter de dresser la liste des expositions que vous avez réalisées. Elles sont au nombre de 2600 entre 1965 et 2016. Je n'ai pas le compte entre 2016 et 2018. Au Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, ici même au Centre Pompidou, au Guggenheim à New York, au MUDAM à Luxembourg. Vous avez réalisé plus d'un millier d'installations dans l'espace public, la place des Terreaux à Lyon, les deux plateaux dans la cour d'honneur du Palais Royal. Plus récemment, l'Observatoire des Lumières sur le bâtiment de la Fondation Louis Vuitton. Merveilleuse intervention dont on aurait voulu qu'elle dure toujours. Vous êtes aujourd'hui une des figures incontournables de la scène artistique, française mais aussi internationale. Lion d'or de la Biennale de Venise en 1986. Prix Premium Impérial au Japon en 2007. Bref, je m'arrête là. Pour entrer dans votre œuvre, Daniel Buren, je voudrais, à l'occasion de cette masterclass, prendre un chemin un petit peu latéral. Ce chemin, c'est celui du cinéma, qui a eu, je crois, pour vous, beaucoup d'importance dans vos premières années. Alors, à la Cinémathèque de la Rue d'Ulme, au Studio 28, à la Pagode, vous avez découvert Buster Keaton, Robert Bresson, Eisenstein, Ziga Vertov. Et puis, à partir de 1960, vous avez entrepris de faire des films vous-même. Qu'est-ce qui, pour commencer, vous a poussé vers le cinéma, Daniel Buren?
C'était même, je crois, en 59, où je suis parti faire un film avec deux amis au Mexique. Donc c'était la première fois où j'ai mis la main à la pâte. Et le cinéma, d'ailleurs toujours aujourd'hui, mais à l'époque, m'intéressait énormément. Et j'hésitais beaucoup entre faire vraiment du cinéma et faire autre chose, plutôt dans les arts plastiques. Et je suis resté très attaché à ce médium. À différents moments, différentes situations, j'ai toujours continué à faire des petites choses avec, disons, des images mobiles, comme par exemple les toutes premières vidéos grâce à une galerie allemande qui s'appelait Gary Schum et qui a été la première personne qui a invité des artistes à faire des travaux sur avec le système vidéo qui venait juste de démarrer en 1969-70 plutôt. Et donc, comme ça, jusqu'à aujourd'hui, je fais de temps en temps des choses avec l'image en mouvement. Et récemment, j'ai fait donc un film qui est un peu spécial, qui est un petit peu la seule façon pour moi éventuellement d'aborder la rétrospective qui est impossible dans mon travail, qui est un film qui est une première partie qui dure 7 heures à peu près. Et je travaille en ce moment sur un film que j'ai tourné en Chine et qui n'est pas du tout encore terminé au niveau du montage. Donc c'est une chose qui est toujours un petit peu dans mon activité et dans ma tête.
Et au-delà de la question des images en mouvement strictement, je me demandais si les éléments du cinéma avaient dans votre œuvre non vidéo ou cinématographique laisser une empreinte. Je pense à la question du cadrage, à la présence de la lumière, à la question du point de vue.
C'est toujours difficile de faire des sauts de cet ordre, mais je dirais que dans la mesure où la grande majorité des travaux sont non seulement in situ, mais sont fixes. Ce qui ressemble le plus au mouvement de la caméra, c'est celui des visiteurs et des spectateurs. Et donc, il est difficile de voir un de mes travaux sans bouger. Il n'y a pas un point seul sur lequel il faudrait se mettre pour voir ce qui est à voir. Donc c'est très libre. Il y a des centaines, voire des milliers de points de vue. Mais c'est vrai que ces points de vue sont faits pour être découverts. Et c'est en fait chaque visiteur qui, lui, fait son circuit, fait ses choix aussi. Moi, par exemple, c'est sûr que jamais je vais dire que telle œuvre, c'est de là qu'il faut la voir, c'est le meilleur point de vue. En revanche, si quelqu'un me dit la même chose, je vais sans doute acquiescer, parce que c'est un parmi les centaines de points de vue, et c'est ça, une certaine liberté laissée à ceux qui viennent visiter ou qui traversent un travail quand c'est un travail public.
Revenons à vos débuts, Daniel Buren, pour cette masterclass. J'aimerais savoir si l'art était présent dans votre environnement familial.
Alors, comment je pourrais répondre à votre question? Premièrement, pour des choses qui seraient plus personnelles, je réponds jamais. Donc, la première partie. La deuxième partie, c'est que, où je peux répondre, c'est qu'effectivement, j'ai toujours été intéressé d'une certaine façon, non seulement pour moi-même faire des milliers de petites choses de l'ordre des choses visuelles, et que petit à petit, je me suis intéressé un peu à ce que c'était que ce domaine. Et le moment où certainement je me suis mis le plus proche dans ce qui était le fait d'être un artiste, c'est un travail. J'étais très jeune, j'avais 17 ans, que j'ai fait donc à cette époque, et qui était le titre que j'avais donné, je ne sais même pas pourquoi, c'était l'influence du paysage dans la peinture de Cézanne à Picasso. Et donc pendant 3 mois, j'ai traversé toute la Provence dans tous les sens, et j'ai visité des dizaines, voire des centaines d'artistes qui presque toujours étaient incroyablement accueillants. Je venais de nulle part et je disais, voilà, ça m'intéresse de voir un peu ce qui se passe et pourquoi vous êtes là dans ce paysage, et etc. Et ça m'a permis de rencontrer donc des gens extrêmement différents, des plus, disons, inconnus à l'époque et encore aujourd'hui, aux plus fameux comme Masson, comme Picasso, comme Chagall, comme Magnelli, enfin j'en passe quelques-uns, mais parmi les plus fameux, c'était ceux-là.
Parmi les premières choses que vous avez regardées, effectivement, on voit très vite qu'il y a Cézanne, Monet, mais aussi les Américains, Pollock, Carl André, que vous avez connus par la suite. Il y a un courant artistique qui est plus inattendu, qui est celui des muralistes mexicains, que vous avez découvert au cours d'un de ces voyages et qui, je crois, vous a assez marqué dans vos premiers travaux, peut-être même dans votre première œuvre.
Oui, ça, c'était presque après ce premier voyage en Provence. Donc, l'année d'après, ou 2 ans après, je suis allé au Mexique et j'ai fait là une espèce d'étude sur quelque chose qui m'intriguait, mais je ne connaissais pas grand-chose à ce sujet-là, sur les fresquistes mexicains. Et là, vraiment, j'ai découvert quelque chose qui m'a passionné, d'une façon d'ailleurs assez ambiguë, dans la mesure où les choses dont ils parlaient, la façon de travailler, etc., me semblaient parfois, même à cette époque, un peu anecdotiques. Mais le travail de fond, la mise en place de ce qu'ils ont établi, était tout à fait passionnant. Les travaux, les résultats étaient assez époustouflants. Et il y avait quelque chose de sous-jacent, dès qu'on s'intéressait un peu, qu'on lisait les choses qu'ils avaient publiées, etc., qui était d'abord un travail avec la révolution mexicaine, et deuxièmement, une attaque virulente de ce qu'on pourrait déjà à l'époque appeler, qui s'appelait plus ou moins, l'école de Paris. Et en tout cas, contre l'art, disons, occidental. Et venant de Paris, c'était vraiment une espèce d'éclat entre le chaud et le froid, entre une vue que je ne connaissais pas et qui avait été faite par des artistes de première importance qui connaissaient d'ailleurs Paris, qui avaient pour la plupart déjà été à Paris avant pour travailler et qui, revenus chez eux au moment de la Révolution mexicaine, ont pris des positions à la fois violentes et très articulées contre ce qu'ils appelaient plus ou moins l'école et la production d'œuvres bourgeoises dans nos pays.
Alors en 1960, vous entrez à l'École nationale des métiers d'art. Vous avez fréquenté aussi occasionnellement l'École nationale des beaux-arts, mais surtout quelques années plus tard, en 68 justement, pour y fabriquer des affiches avec vos camarades. Vous avez aimé ces années de formation ?
L'école, c'était celle des métiers d'art, dans laquelle je suis resté le temps de cette école, qui était 3 ans, qui était une école qui était située dans un lieu que tout le monde connaît aujourd'hui, qui est devenu le musée Picasso. Cette école n'existe plus, d'ailleurs. Ensuite, quand même, par rapport aux écoles, j'avais fait le concours des Beaux-Arts de Paris. C'est une anecdote, mais elle vaut son pesant de cacahuètes, comme on dit, parce que j'ai été reçu, je crois, premier, et je n'y ai jamais mis les pieds. Donc, voilà, mon passage à l'École des Beaux-Arts a été très fulgurant.
Daniel Buren, puisqu'on en est à ses premières années, est-ce que vous croyez à l'idée de la vocation ?
Oui, c'est difficile aussi. Je pense que tout est possible dans la volonté de faire quelque chose dans un domaine créatif, que ce soit la musique, la peinture, la sculpture, le théâtre, etc. Que certainement quelques aptitudes ou quelques sensibilités vers l'un de ces domaines est intéressant et même pousse un petit peu à aller voir ce qui s'y passe. Maintenant, la vocation, qui voudrait dire que dès qu'on a 6 mois, on sait qu'on va peut-être faire ça plutôt qu'autre chose, j'y crois pas trop.
La question de la transmission est loin de vous être étrangère, puisque quelques années plus tard, vous avez créé et dirigé avec Pontus Hulten
l'Institut des hautes études en art plastique.
Merci beaucoup. Un endroit qui était tout à fait révolutionnaire en son temps, qui visait à créer un modèle alternatif d'enseignement de l'art.
Oui, ça a été une très bonne période à ce niveau-là, avec l'idée que, enfin, j'avais eu beaucoup d'expérience, disons, en tant que professeur volant, parce que j'ai jamais été très favorable, et donc j'ai jamais fait de professorat au sens strict du terme. Et lorsque j'ai vu un peu comment ça se passait, c'est parce que j'ai été invité dans beaucoup de lieux, aux États-Unis, au Canada, en Allemagne, partout, sauf d'ailleurs en France, pour donner des 15 jours, des espèces de workshops ou des masterclass. Et j'avais vu un tas de choses pendant que je faisais ça, et j'avais vu quand ça marchait, et je croyais bien comprendre pourquoi ça marchait un peu, et quand ça ne marchait pas, pourquoi ça ne marchait pas. La majorité, d'ailleurs, à mon avis, ne marchait pas. Et quand Pontus Hulten m'a demandé si ça m'intéresserait, d'abord je lui ai dit, écoute, c'est pas possible, je voyage beaucoup trop pour faire un truc pareil. Et il m'a dit, mais c'est peut-être l'occasion pour poser tes valises un petit peu. Ce que d'ailleurs je n'ai pas fait, mais je me suis quand même intéressé. Et on a travaillé et on a décidé de quelques propositions qui ont un peu articulé cette expérience, qui était d'abord de choisir des jeunes gens ou jeunes filles qui avaient quand même déjà terminé leurs études d'art ou de n'importe quoi, mais qui étaient plus déjà décidées pour essayer d'entrer dans ce domaine. Ensuite, évidemment, d'en choisir le maximum qu'on pouvait, c'est-à-dire avec les moyens qu'on avait, c'était une 20, 21, je crois 22 le maximum. Ensuite, de faire des sessions journalières où on commençait vers 9h du matin et on terminait jusqu'à plus soif et on déjeunait tous ensemble. Ensuite, d'inviter le plus souvent possible des artistes, des gens qui s'occupent d'art, des collectionneurs, des historiens, des philosophes, des cinéastes, pour passer la journée avec nous et parler de leur propre travail, avec une ouverture assez grande, même critique, de la part des 20-22 artistes ou jeunes artistes qui étaient avec nous. Ensuite, chose très importante, les artistes en question étaient rémunérés, ce qui faisait qu'ils avaient une certaine liberté. En même temps, nous aussi, on en avait une. S'il semblait qu'ils ne s'intéressaient pas à ça, c'était facile aussi de pouvoir leur dire qu'il fallait aller voir ailleurs. Et ça durait 3 mois complets à peu près chaque année. Et nous avons fait comme ça 8 ans jusqu'au jour où on n'a pas pu continuer, manque de crédit. Et la chose la plus étonnante, c'est que... Alors, il n'y avait pas non plus de visite d'atelier. On regardait les travaux des jeunes artistes qui présentaient, comme les autres personnes invitées, pendant une journée, leurs travaux. Et en face d'eux, il y avait les autres artistes qui étaient là et qui critiquaient ou qui posaient des questions. Donc, il y avait le même type de relation. Il se trouve que quelques années après, et d'ailleurs à notre grande surprise, beaucoup parmi ces jeunes artistes qui avaient entre 21 et 25-26 ans sont aujourd'hui les gens qui comptent dans le domaine artistique.
Alors, poursuivons ces présentations, Daniel Buren, pour cette masterclass de France Culture. Je voudrais rappeler 3 concepts spécifiques que vous désignez avec un vocabulaire qui vous est personnel. On reconnaît vos interventions par la présence de votre outil visuel, ces bandes alternées, blanches et de couleur, larges de 8,7 cm. C'est pour vous une manière de montrer, de révéler des espaces, c'est un moyen et non une fin. Leur découverte remonte à 1965 au marché Saint-Pierre. Vous avez remarqué cette toile de store rayée qui est devenue la base de votre vocabulaire artistique, en quelque sorte le degré zéro de la peinture. Vous intervenez dans des espaces in situ, c'est-à-dire dans un lieu donné, avec des œuvres qui sont fabriquées dans ce lieu. Vous êtes le premier à avoir utilisé ces mots latins pour désigner votre travail. C'est l'idée que l'œuvre révèle un lieu et que ce lieu même rend l'œuvre intransportable, à l'exception de vos travaux situés, qui sont là des œuvres déplaçables, mais avec l'idée que chaque nouvel espace fait une nouvelle œuvre d'art. Alors, le principe de ces masterclass consiste en général à entraîner nos auditeurs dans l'atelier de l'artiste. Avec vous, c'est un peu compliqué parce que cette question ne se pose pas comme avec les autres. Je voudrais vous citer un texte de 1971 dans lequel vous dites que, alors que toute la production de l'art d'hier et d'aujourd'hui est non seulement marquée, mais procède de l'usage de l'atelier comme lieu essentiel et parfois même unique de la création, tout votre travail découle de son abolition. Alors, Daniel Buren, est-ce que néanmoins vous avez un lieu de travail qui ne soit pas un atelier, mais dans lequel vous avez des habitudes, des endroits où vous réfléchissez particulièrement pour travailler?
Alors, l'abolition de l'atelier, d'abord, c'était une nécessité qui m'était apparue comme étant une façon de survivre, parce que je ne trouvais pas de lieu, que j'avais pas les moyens de pouvoir utiliser des lieux qui étaient disponibles. Et donc, je voulais pas continuer à perdre mon temps avec ce genre de choses. Et donc, un jour, j'ai vraiment décidé qu'il devait y avoir d'autres manières de travailler. Et donc, je ne suis pas sorti de mon atelier ou de l'endroit où je travaillais avec l'idée que je n'aurais jamais un lieu spécifique pour travailler. C'est simplement avec le temps, et maintenant ce temps, ça fait 53 ans, et j'ai toujours pas d'atelier. Donc évidemment, c'est devenu véritablement une manière de travailler. Mais ce que ça veut dire, c'est que dès que vous prenez cette décision... Vous apercevez tout ce que ça peut changer. Ça change l'idée de production d'œuvres qui serait faite a priori. Ça enlève l'idée de faire des choses Et puis, si on n'en est pas content de les détruire et personne n'est au courant, ça enlève toute cette espèce de chose qui est d'ailleurs extrêmement, comment dire, valable, mais qui ne peut plus se faire si, justement, on n'a pas de lieu spécifique pour travailler et ensuite pouvoir exposer ses œuvres. Donc ça change beaucoup, beaucoup de choses, y compris le fait d'être beaucoup plus tenu et beaucoup plus ancré sur le lieu dans lequel on va travailler, quel qu'il soit. Et donc, quant à un lieu dans lequel je pourrais faire je ne sais quoi qui serait préparatoire, ça peut être n'importe où. Donc, comme je voyage beaucoup, c'est là où je me trouve généralement, y compris dans les lieux dans lesquels je fais une exposition.
Et alors, quand vous êtes invité par un lieu, par un musée, ou par comment advient l'idée de l'œuvre ? Est-ce que c'est en faisant autre chose ? Est-ce que c'est en regardant l'espace dans lequel vous allez travailler ? Est-ce que c'est en parlant avec divers interlocuteurs ?
Il y a tout ça à la fois. Si c'est une exposition dans un lieu... je fais un peu une séparation entre des œuvres qui sont des œuvres faites pour le domaine public, qui sont vraiment tout à fait une autre démarche. Mais si on prend la démarche plus traditionnelle d'être invité dans un musée ou dans une galerie et d'essayer d'y faire une exposition, ça dépend, là encore, beaucoup du lieu. Alors on peut dire que les galeries ont des similitudes un peu qu'on retrouve dans tous ces espaces. Les musées, c'est déjà un peu plus varié, surtout depuis qu'il y a la prolifération qu'on connaît de musées. Si c'est un espace où l'on me donne un espace, disons, important, ça veut dire généralement qu'il faut absolument que je voie tout avant de commencer à travailler, un an avant ou 6 mois avant, et ensuite de réfléchir à ça à ma façon, quand je peux, et ensuite de travailler sur place ou de préparer, avec l'aide évidemment du musée, des fabrications de choses qui seront faites pour l'expo et qui seront, dans la plupart des cas, détruites après l'exposition.
Concrètement, comment ça se passe ? Vous réservez le mot « dessin » pour vos travaux dans l'espace. Alors, vous faites ce que vous appelez des esquisses graphiques. Vous avez des carnets de notes, vous avez des feuilles dans vos poches sur lesquelles vous notez des projets. Comment vous travaillez exactement ?
Mais ça, là aussi, ça m'est un peu compliqué de répondre comme s'il y avait une méthode et surtout comme s'il y avait une habitude. Ça dépend aussi beaucoup des lieux. Je peux faire beaucoup de dessins pour quelque chose. Généralement, quand il faut surtout l'expliquer à d'autres qui vont vous donner la main pour mettre les choses en place, parce que dès que c'est important, il est impossible de préparer. Il y a toujours une question de temps qui est jamais dite, mais qui est très importante. Faire une exposition dans un musée, le maximum qui me soit arrivé, c'est d'avoir le musée pour moi pour travailler pendant un mois avant. Mais ça veut dire que le musée ferme ses portes pendant un mois. Enfin, je veux dire, c'est très, très compliqué. Donc, généralement, quand les musées sont grands, il y a des lieux qui sont quand même réservés aux expositions qui se font et où on peut travailler 15 jours, 3 semaines, c'est le grand, grand maximum. Donc, soit il faut préparer en amont certaines choses, soit là, il ne faut pas arrêter avec les équipes du musée pour monter l'exposition. Quand il faut travailler avec beaucoup de personnes, c'est sûr que le dessin est important parce que ça va beaucoup vite pour expliquer ce qu'on veut. Et moi, je mets souvent la main à la pâte. Donc, en fait, je travaille avec les gens-là. Mais c'est pas systématique. Parfois, si je fais une exposition, ça m'est arrivé dans des musées, je fais aucun dessin et je pars comme ça.
Alors, venons-en.
Généralement, c'est que je peux quand même contrôler les choses tout seul parce que si c'est pas possible, les autres sont forcés de participer et ont besoin, évidemment, de certaines aides visuelles ou parlées avant de commencer à travailler.
Pour ce qui concerne l'élaboration de la forme de vos œuvres, Daniel Buren, vous travaillez avec des matériaux extrêmement variés, du verre, du miroir, du bois, du plastique. Comment trouvez-vous la forme d'une œuvre et comment le médium juste s'impose-t-il ?
C'est aussi une chose qui est extrêmement, je dirais, a priori, aléatoire. Très souvent, quand je vais dans des lieux que je ne connais pas, enfin des pays que je connais pas bien ou pas du tout, je m'inquiète souvent de savoir qu'est-ce qu'ils produisent, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qui est très facile à trouver. Est-ce qu'on peut trouver du bois? Est-ce qu'on peut trouver, on peut travailler avec du plastique? Ou est-ce qu'au contraire, on n'a que des bambous à portée de main ou je ne sais quoi? Et quand la chose est assez précise, évidemment, des choses qu'on trouve partout, comme le bois, sont toujours évidemment possibles à utiliser. Mais dès que c'est un peu plus particulier, ça m'intéresse de voir ce que je peux faire avec. Donc, j'ai pas une idée préconçue et souvent le matériau va me permettre de faire quelque chose que je n'aurais jamais fait avant et que je ferai sans doute jamais encore après.
Et qu'en est-il de la couleur? Vous dites que la couleur, c'est la pensée pure, c'est de la pensée pure. Quand vous avez à choisir l'agencement des couleurs sur vos œuvres, et elles sont souvent nombreuses, comment faites-vous?
Alors ça, c'est un processus qui est aussi assez spécial. J'ai toujours pensé depuis le tout début que effectivement la couleur c'était l'élément le plus important dans une chose qui est donnée à voir dans la peinture, donc en particulier. Et donc c'est là pourquoi c'est important, c'est avant toute chose, c'est parce que c'est la seule chose qui soit intrinsèquement impossible à décrire. Et tout ce qui ressemble à des descriptions de couleurs, c'est toujours quelque chose qui est plutôt du genre humoristique que du genre sérieux. En revanche, c'est de la pensée qu'on peut dire pure, pure dans la même mesure que on peut s'exprimer avec des mots et que d'autres s'expriment avec des sons et qu'à ce moment-là, ce n'est pas transcriptible avec un autre type pas d'outils, mais même de matériaux, etc. Donc ça m'a toujours à la fois intéressé pour ces raisons et j'ai eu toute une série de stratagèmes pour éviter justement, alors que j'ai toujours utilisé la couleur, éviter de l'utiliser dans un sens qu'on pourrait dire de goût ou très personnel. Ça veut dire que tous les stratagèmes sont possibles, certains qu'on connaît bien dans le domaine artistique, surtout au XXe siècle. On peut choisir ses couleurs avec des dés. On peut. Moi, j'ai souvent demandé à d'autres de prendre des couleurs qui les intéressaient, ce qui a deux avantages. Un, de me détacher de ce type de choix, et deux, de me forcer parfois à travailler, parce que évidemment, j'ai forcément un goût, comme tout le monde, avec des choses qui correspondent pas du tout à ce que j'aurais peut-être choisi. Mais c'est de très bons exercices que je me suis souvent permis de faire. Et parfois, c'est plus précis. Par exemple, lorsque j'ai fait ce travail qui a consisté à la Documenta numéro, je crois, 5 en 72, où j'ai en fait travaillé en amont de la Documenta avec les peintres qui faisaient toutes les salles de l'exposition, j'ai collé dans chacune de ces sections du papier rayé blanc sur blanc, pour être le plus discret possible. Et pourquoi il fallait évidemment que le travail soit le plus discret visuellement possible, c'est parce qu'après l'exposition allait s'installer dès qu'elle allait commencer à être visible. Et donc les artistes ou les marchands qui présentaient les œuvres ou je ne sais quoi, venaient accrocher les tableaux sur des murs blancs et de temps en temps tombaient sur un mur rayé. Et ce mur rayé, très souvent, je dois dire, il n'en faisait pas plus attention que sur le mur blanc. Donc j'ai développé là toute une série de travaux, y compris un travail spécifique dans la section dans laquelle j'étais personnellement invité. Et donc c'était une sorte de ping-pong, où se trouve l'œuvre d'art, si œuvre d'art il y a, qu'est-ce qui est décoratif là-dedans? C'est le mur rayé ou le mur blanc ou l'œuvre qui est dessus, ou au contraire, l'une est œuvre et l'autre est décor, etc., etc. Donc là, c'est une stratégie et ce n'est pas un choix esthétique.
Dans vos œuvres, Daniel Buren, il y a tout un aspect extrêmement organisé, extrêmement précis, mais il y a aussi un certain nombre de variables. Et je pense par exemple à la lumière, à l'observatoire de la lumière, par exemple, dont on parlait en introduction à la Fondation Louis Vuitton, mais aussi le mouvement des personnages, des visiteurs dont vous parliez tout à l'heure. Finalement, vous faites dans votre travail une part au hasard. Vous créez avec votre travail un espace de liberté qui est plus grand, me semble-t-il, que ce qu'on pourrait imaginer au premier abord.
Ah bah oui, ça c'est Enfin, je veux dire, ça fait partie complètement du travail. D'abord, il y a déjà ce côté malléable de ce que je vais essayer de faire, puisque d'une certaine façon, ça va s'articuler, s'adapter ou venir contredire le lieu dans lequel ça se trouve. Donc là, c'est beaucoup d'inconnus avant de commencer à faire quelque chose. Ensuite, lorsque j'ai trouvé une ligne, généralement c'est là où c'est très précis, parce que cette ligne, je n'en démords pas. Et ce qui se passe très souvent, que je trouve toujours évidemment intéressant quand ça arrive, c'est que cette ligne en question finit par créer des surprises un peu partout. Donc, et ces surprises, je pense que même si c'était possible, mais en même temps c'est pas toujours possible, ça ne m'intéresserait pas de les connaître avant de travailler. C'est pour ça que je n'aime pas du tout les simulations qu'on peut faire aujourd'hui techniques sur les architectures ou sur n'importe quoi, et donner l'apparence d'une chose finie avant qu'elle existe. C'est pour ça que j'aime pas non plus les maquettes, dont je me sers très rarement, sauf quand c'est obligatoire pour un concours dans l'espace public, parce que je n'ai pas envie de connaître exactement ce que va être le travail que je vais faire une fois fini. C'est quand il est fini qu'il m'intéresse.
Justement, depuis 1965, vous avez énormément écrit. Il y a deux gros volumes de vos textes qui sont parus en 1992 et en 2012. Il y a un d'entre eux qui date de 1981, qui s'appelle « Pourquoi écrire ?», dans lequel vous énoncez cinq raisons possibles. Nécessité, urgence, réflexion, commande et plaisir. Et en fait, ces textes, on a l'impression que vous les écrivez parfois avant, mais aussi parfois après la réalisation d'une œuvre. Justement, comme vous le disiez à l'instant, que vous regardez votre propre travail avec du recul, comme si votre travail continuait à vous apprendre quelque chose sur lui-même, ce qui me semble très passionnant.
Je pense que ça fait vraiment partie de la façon de pouvoir faire autre chose. Là où c'est le plus évident, c'est quand j'ai commencé à être invité pour faire des conférences sur mon travail, et où du coup je récapitulais quelques images, quelques travaux. Avec le temps, c'est devenu évidemment beaucoup plus difficile, parce qu'il y en a beaucoup, et il faut faire des tris très difficiles à faire. Mais en fait, j'essayais, et surtout avec le temps, de montrer le plus possible des images de travaux que j'avais un peu perdu en mémoire, ce qui me permettait à la fois de me les remémorer et, chose curieuse, d'y voir des choses que j'avais pas vues au moment où c'était fait et qui me servent parfois pour faire autre chose. Donc, c'est sûr que la réflexion sur ce qui a pu être fait est, à mon avis, aussi surprenante ou intéressante que le travail fait sur quelque chose dont on n'a pas idée en le commençant.
Alors, point important de ces masterclass de France Culture, Daniel Buren, je voudrais revenir sur la question de la production de vos œuvres. Donc, on a compris qu'elles ne sont jamais réalisées chez vous, mais il y a quand même un certain nombre de personnes qui travaillent autour de vous. Avec vous, on imaginerait un énorme studio, ça n'est pas le cas. Comment choisissez-vous vos collaborateurs en fonction des différents projets que vous menez ?
Par rapport aux projets, c'est le plus souvent les équipes et les gens qui se trouvent dans les lieux où je suis invité. Alors, c'est évidemment différent, une fois encore, quand il s'agit du travail dans l'espace public, parce que généralement là, étant donné que je n'ai pas d'équipe d'assistants pour travailler, soit je peux travailler avec des gens que je connais déjà, ou soit c'est des gens tout à fait nouveaux avec lesquels, et généralement, j'irai même plus loin, dans l'espace public, ce sont le commanditaire étant une ville ou l'État, il y a ensuite des appels d'offres, et on va se trouver avec des gens qu'on ne connaît pas du tout. Donc c'est très différent à chaque fois. Là où il y a des choses qui se retrouvent, c'est évidemment dans le musée, dans la galerie, où il y a généralement des équipes de travail qui sont plus ou moins attachées au musée, au lieu, et avec lesquels donc je m'adapte et je travaille, et qui sont toujours assez importants pour moi. Par exemple, travailler au Japon, dès la première fois où j'étais non seulement intéressé de travailler avec des gens qui pouvaient aider à faire quelque chose, mais ensuite non seulement d'apprendre, mais aussi de les laisser faire à leur manière quelque chose que je voulais faire. Et non pas de leur dire, je veux que ce soit fait comme ci, comme ci, comme ça. Et donc je donnais une idée de ce que ça devait être une fois terminé, mais à leur façon. Et j'ai très souvent été plus que surpris ou intéressé par le résultat.
Vous arrivez aussi de travailler, Daniel Buren, avec d'autres créateurs. Je pense par exemple à Patrick Bouchain. Ce sont des créateurs en qui vous avez une très grande confiance. Dans ce cas-là, c'est important pour vous, l'avis des autres, dans l'élaboration de votre œuvre ?
Ben, en fait, ça l'est toujours. Dans le cas de Patrick Bouchain, qui est architecte, il m'a assisté au Palais Royal et dans quelques autres travaux, y compris d'ailleurs ce qui est unique, parce que généralement je fais ça presque tout seul, dans l'exposition que j'ai fait à Beaubourg en 2002. Mais il y a toujours une collaboration. Alors quand c'est quelqu'un qui a d'ailleurs une distinction dans son travail qui est différente de la mienne, en l'occurrence là un architecte, évidemment c'est un petit peu spécial. Mais lorsque ce sont les gens du musée qu'on ne cite pas forcément, c'est à peu près tout aussi spécial. Sauf que je m'adapte à ce moment-là à des gens que je ne connais pas, mais qui ont leur mot à dire.
Par exemple, les commissaires de vos expositions ?
Bah, quand je fais une exposition personnelle, j'ai jamais de commissaire. Donc ça pose pas de problème. Ça peut se poser que dans les expositions de groupe, mais c'est un peu différent.
J'avais le sentiment que les avis que vous recueillez étaient rarement ceux des commissaires, ceux des galeristes et ceux des critiques d'art.
Ça dépend, mais les critiques d'art ne se trouvent pas souvent dans l'élaboration d'une exposition. Les commissaires, oui, les conservateurs aussi, etc., etc. Mais de toute façon, qu'on leur laisse faire l'expo ou que l'on collabore, ils ont toujours des choses à dire qui peuvent être intéressantes. Enfin, quand ça m'intéresse, moi, évidemment, je ne crache pas dessus.
Alors, à partir des années 80, Daniel Buren, vous avez assuré un certain nombre de commandes publiques. Vous dites que c'est moins votre rapport à l'architecture qui vous a conduit là que la mise en place d'un système politique qui, justement, remettait à l'honneur la commande publique. Lorsqu'un artiste fait une commande publique, comment gère-t-il le politique ? Au fond, est-ce qu'il a à gérer le politique ? Et qu'en est-il de la question de la contrainte dans la commande publique à différents égards ? Parce que la contrainte, elle peut être politique, elle peut être technique.
Bien, d'abord, il faut déjà dire une chose, c'est que dès qu'on est invité quelque part, il y a une contrainte. Ça n'existe pas sinon, enfin pas dans mon cas en tout cas. Donc il y a une contrainte, il faut travailler avec des gens qui sont étrangers, parfois aussi surprenant que ça puisse paraître, qui sont même parfois hostiles. Dans la commande publique, alors là c'est le seul moment, je crois, dans la possibilité d'un artiste de faire quelque chose, et c'est nouveau. Il faut jamais oublier que la commande publique, c'est revenu un petit peu en devant de scène dans le début des années 80, particulièrement en France. Ça n'avait pas existé au sens propre du terme depuis une centaine d'années, et qu'ensuite ça s'est développé jusqu'à aujourd'hui, en tout cas, à peu près dans le monde entier. Et d'un pays à l'autre, c'est pas toujours les mêmes systèmes. Mais en fait, l'idée de commander à des artistes une œuvre est une chose qui est un peu rentrée dans les mœurs depuis 30 ans. Le terme commander est aussi complètement stupide parce qu'on commande rien du tout, contrairement justement à la commande publique dont on a repris le terme et qui existait avant. On dit pas à l'artiste, voilà, je veux faire le caporal machin chose sur son cheval, ben, ça c'est, ou alors c'est autre chose. On donne à l'artiste un lieu, généralement. Il y a des contraintes dans ce lieu, bien sûr, mais c'est tout. Et la deuxième chose qu'il faut dire, parce que peu de gens le pensent, il n'y a quasiment pas de commande publique qui ne soit pas le résultat d'un concours. Donc la commande publique, c'est pas comme dans un musée, d'être invité en tant que personne pour faire quelque chose seul ou en groupe. La commande publique, c'est un concours. Et quand celui qui est le lauréat ou celle qui est le lauréat sont choisis, il y a peut-être une œuvre qui va venir. Mais même ça, c'est pas sûr à 100%. Donc la commande publique, c'est aussi, et finalement, le moment où l'œuvre d'art, enfin la façon de faire quelque chose qu'on va peut-être appeler une œuvre d'art, ce qui n'est pas encore évident que ce soit une œuvre d'art, est le plus immédiatement politique. Donc on sait bien que le politique, il est partout, dans le musée, dans la galerie, etc. Mais dans la commande publique, il est au premier chef. C'est un politique qui fait cet effort ou cette demande. C'est un politique parmi un groupe assez restreint dans une ville qui va dire oui ou non. Et ensuite, on est tout le temps en rapport avec la hiérarchie politique. Alors que dans le musée, même s'il y a des représentants, pour certains, dans les États, de l'État et d'autres qui sont plus municipaux, on est assez éloigné quand même. On est en rapport avec celui qui représente ça, mais on n'est pas directement avec le politique. Dans la commande publique, on est directement vis-à-vis des politiques et des gens qui ont l'autorité.
Alors justement, l'espace du musée, Daniel Buren, vous vous y êtes beaucoup intéressé, vous avez écrit sur l'espace du musée, et ici même au Centre Pompidou en 2002, vous avez fait cette exposition formidable, le musée qui n'existait pas, dans lequel le visiteur était invité à se promener, à déambuler dans un espace. On a l'impression que par cette déambulation, vous démontiez en quelque sorte l'autorité et les codes du musée, justement.
Il y a beaucoup de manières d'aborder une exposition personnelle dans un musée. Ici, c'est un musée multiple d'abord dans ses activités, puis aussi multiple par rapport à son espace, par rapport aux choses, disons, du XXe siècle, aux choses contemporaines, qui sont plus ou moins les unes avec les autres. Et puis beaucoup d'endroits qui sont déjà dans l'architecture une manière de déambuler. Les escaliers mécaniques à l'extérieur qui permettent d'arriver dans le musée, c'est quand même quelque chose qui à l'époque était inédit et qui permet d'aller dans ce musée. Ça permet aussi de découvrir la ville dans laquelle il se trouve, etc., etc. Donc il fallait pousser un tout petit peu pour montrer que ce musée permet cette chose-là et qui était en tout cas à très souvent un petit peu obstrué par tout ce qu'on voit dans un musée. Ici, il y avait par exemple dans le grand forum, il y avait, si on s'en souvient, des grandes affiches qui indiquaient où on était, la direction pour le cinéma, la direction pour les expos, etc. Et qui était à la fois très artistique d'une certaine façon, qui était fait par un grand designer, Rudy Bohr, mais qui en plus, je pense, ne donnait même pas de direction. Parce qu'elle se montrait plus que de montrer une direction possible. Donc j'avais joué avec ça d'une certaine façon, en les occultant et en laissant seulement le dos montrer. D'ailleurs, je vois que depuis que ça a été fait, tout ça a été enlevé. Donc peut-être on s'est rendu compte que c'était pas très utile. Et il y a plein de choses comme ça qui étaient des clins d'œil. Et en même temps, c'est sûr que cet espace ici, qui est un espace, depuis que le musée a été transformé, que j'ai toujours trouvé complètement incongru, ressemble plus en général à un parking qu'à autre chose. On est en plus à côté du parking et donc j'avais transformé tout cet espace en parking qui, pour beaucoup de gens qui connaissaient pas trop le musée, pensaient que c'était vraiment le parking parce que...
Alors, dans le musée qui n'existait pas, il y avait aussi des cabanes et ce terme de cabane a un sens précis dans votre œuvre. Construire des cabanes au musée, c'est un peu paradoxal quand on le formule comme ça. En tout cas, on pense à l'enfance, on pense à des sortes d'anti-monuments, on pense à des formes d'humour aussi qui existent dans votre travail. Et on pense à la notion de plaisir. C'est important, la notion de plaisir, dans votre œuvre, Daniel Buren ?
Je pense que c'est très important, mais ça n'a en même temps aucune importance, dans la mesure où je pourrais toujours dire, comme beaucoup, que je prends un plaisir fou à faire ce que je fais, mais bon, si les gens qui regardent n'en prennent aucun, je veux dire, ça ne mène pas très loin. Donc, à la limite, c'est intéressant de savoir, et si c'est pas ça qui se passe, tant pis, si des gens qui visitent ont un certain plaisir à voir des choses, à comprendre des choses ou à discuter sur des choses. L'idée de cabane, évidemment, vient de ce terme enfantin, tous les enfants ont construit des cabanes Et la première fois que j'ai abordé ça, je savais pas ce que je pouvais vraiment continuer à faire avec ça, mais je dois dire que quand l'occasion se présente, je fais des choses nouvelles, toujours avec cette idée de cabane, qui sont très simples. C'est généralement des formes géométriques, pas toujours cubiques, mais très très simples, rectangles ou carrés, ou cercles, et qui se développent dans l'espace, et ont toujours, et c'est pour ça que ça s'appelle des cabanes éclatées, des parties qui sont découpées, qu'on peut ensuite considérer comme des portes, des fenêtres ou des ouvertures, et qui sont projetées, pour le dire d'une façon générale, mais il y a beaucoup de façons de le faire, sur les premiers murs qui sont rencontrés si ça se trouve dans une salle. Et donc il y a une explosion de cette cabane, et quand on rentre dans cette salle, on est à la fois dedans et dehors, à chaque pas, autour ou à l'intérieur de cette cabane.
Proche de ce monde de l'enfance, Daniel Buren, et je pense par exemple à votre exposition à Strasbourg en 2015 qui s'intitulait « Comme un jeu d'enfant », il y a la piste du cirque et il y a aussi la scène. Vous avez depuis longtemps été fasciné par le cirque, vous avez même créé Buren Cirque au début des années 2000 avec deux circassiens, Dan et Fabien Demuinck. Et en 2013, vous avez créé une structure formée de trois cabanons, justement, pour faire un cirque.
Oui, ben ça c'est un travail au milieu de tous les autres, mais qui a... Disons que les cabanes, c'est une chose assez personnelle et qui circule dans mon travail et qu'on peut voir ici ou là au moment d'exposition. Généralement d'ailleurs toujours nouvelles et généralement détruites après l'exposition, mais pas toujours. Il y en a certaines qu'on peut transporter, où il y en a certaines dans certains musées dans le monde, dans le Japon par exemple, qui sont permanentes et donc fixes dans l'espace du musée. Le cirque, c'est évidemment autre chose, dans la mesure où ça, c'est un travail avec vraiment des équipes très particulières qui m'a été donné de faire depuis une vingtaine d'années. D'abord, comme participant à un travail dans le cirque, et ensuite, ils m'ont appelé pour essayer de travailler plus avec eux et non pas simplement en faisant un dispositif qui était le type de travail fait dès le début. Et là, ça fait 20 ans que ça dure et on a fait beaucoup de travaux. L'idée générale, pour le donner de façon courte, c'est que je donne une idée à un dispositif. Alors, on coupe le chapiteau en deux, en quatre, en huit, on le coupe... dans l'horizontalité, on coupe verticalement, on bloque les sièges, enfin j'ai fait plein de choses comme ça, et avec ça les gens du cirque font un spectacle. Donc ils transforment tout ça à leur manière avec un travail vraiment spécial que je ne fais pas, que je regarde et que je découvre souvent une fois qu'il est déjà élaboré. Et puis avec la suite des événements, j'ai finalement créé trois types de chapiteaux avec une idée qui était au départ comme ça, celle que je proposais. Je vais vous faire trois chapiteaux qui sont évidemment mobiles et qui, dans la première idée, mais on ne l'a jamais réalisé, c'est trop compliqué, devaient être trois spectacles différents dans une ville ou un village, les trois chapiteaux étant assez séparés les uns des autres. Les spectateurs se trouvant chaque fois dans un chapiteau et tous les gens qui jouent, les funambules, les jongleurs, etc., courant d'un chapiteau à l'autre pour montrer tout le spectacle aux trois types de publics différents.
Au fond, Daniel Buren, il y a souvent dans votre travail quelque chose qui a trait à la métaphore de la scène. Si on parle, par exemple, de vos travaux situés, de l'idée de rejouer ou d'interpréter des œuvres.
Oui, au début, c'était surtout une forme de travail pour montrer que, d'une certaine façon, l'œuvre mise dans un musée, elle est un peu sur une scène. Et elle se présente d'une certaine façon que j'ai toujours trouvée, que je continue d'ailleurs toujours de trouver. Je parle là des œuvres en général, et des œuvres en général sont, comme vous le savez, à 95% des choses qu'on manipule dans tous les sens. Tableaux, objets, etc., et qu'elles sont en fait mises en scène. Elles sont mises en scène par soit l'artiste lui-même, soit le plus souvent par les gens qui en ont la charge, les conservateurs et autres. Et cette mise en scène, automatiquement, elle fait penser, sauf qu'elle n'est pas souvent explicite, elle fait penser à ce qui se passe dans un théâtre. On met en scène les choses qu'on a envie de montrer. Donc, au départ, j'étais très intéressé pour essayer de faire des choses qui montraient qu'il y avait mise en scène, que les tableaux ne sont pas mis n'importe où, que les tableaux sont... J'ai fait pas mal d'expositions là-dessus, que les œuvres exposées sont non seulement là en tant qu'œuvre, mais en plus, d'une certaine façon, montrent un style. Et généralement, le style, c'est pas celui de l'artiste, mais c'est celui de celui qui est en charge du musée en question. Qu'est-ce que veut dire ce musée? Qu'est-ce que veut dire ce style? Quel est le style qui domine? Et on s'aperçoit, dès qu'on regarde ça d'un peu plus près, qu'évidemment, les mêmes œuvres accrochées, disons, depuis 100 ans, ne sont pas accrochées de la même façon. Et ma question, c'est, est-ce qu'elles disent autre chose parce qu'on les expose autrement, ou est-ce qu'elles disent rien d'autre? Et est-ce que ça voudrait dire que l'œuvre est tellement autonome que on peut la mettre comme on veut, elle va toujours dire quelque chose qui lui est vraiment spécifique? Ou, autre question, est-ce qu'on peut lui faire dire ce qu'on veut?
Et alors, justement, Daniel Buren, à quel moment vous considérez qu'une œuvre est achevée dans cette perspective?
Ah ben dans mon cas, c'est très simple. L'œuvre est achevée quand l'exposition est finie.
Je voudrais à présent, Daniel Buren, aborder la question de votre rapport au public. Vous en avez dit déjà quelques mots. On a le sentiment que vous faites une grande confiance aux regardeurs de vos expositions.
Ah ben c'est la condition sine qua non. Si je ne lui faisais pas confiance, je pense que je n'exposerais pas. Donc, la confiance, en tout cas, elle est d'abord un peu obligatoire, mais surtout, c'est le fait qu'une œuvre, quelle qu'elle soit, soit regardée par un autre que celui qui l'a faite, que cette œuvre va, d'une certaine façon, exister. Donc, moi, contrairement à ce qu'on peut penser, je ne pense pas qu'une œuvre suffise d'être faite et qu'elle soit vue seulement par son producteur ou productrice, Pour qu'elle existe, pour moi, il faut qu'il y ait une tierce personne qui soit là, à un moment donné et qui voit cette chose en question.
Et c'est une manière, Daniel Buren, de faire intervenir la mémoire des visiteurs.
Entre autres,
dans votre travail, dans la pérennisation de votre travail.
Ça, c'est une chose qui ne peut se discuter que pour des gens qui ont déjà vu d'autre chose. Donc c'est une mémoire qui n'est pas toujours, qui n'est jamais d'ailleurs au même niveau par rapport à ce que les gens dans un public, disons, complexe, même dans un musée. Alors je ne parle même pas de l'espace public où là c'est tellement généralisé, c'est tellement complexe, c'est tellement différencié d'une personne à l'autre qu'on n'a même pas tellement la connaissance de ce qui se passe exactement. Mais même dans un lieu extrêmement précis comme un musée, la mémoire de ceux qui regardent et la connaissance de ceux qui regardent, elle est forcément à une foule de niveaux différents. Donc il faudrait parler avec chaque personne pour voir, et ce serait intéressant, comment telle chose est perçue, non seulement par rapport à une connaissance générale, mais en plus par rapport à ce que la personne en question peut connaître du travail en question. Donc c'est très difficile, mais effectivement, sans mémoire, d'ailleurs, je pense qu'on ne peut rien voir du tout. Il faut déjà connaître pour commencer à voir.
Vous vous êtes beaucoup intéressé, Daniel Buren, enfin, vous continuez de vous intéresser à la vie de vos œuvres dans le temps. Certaines d'entre elles sont détruites au bout d'un certain temps.
Ça, c'est d'autres,
simple. Pardon ?
Ça, c'est simple.
Ça, c'est simple, absolument. D'autres sont pérennes. Mais dans le cas de ces œuvres qui sont détruites, vous avez institué un système, une manière de les faire perdurer, que vous appelez photosouvenir depuis 67. Alors, dans ce terme, il y a quelque chose de très léger. Ce ne sont pas des traces, ce ne sont pas des œuvres. C'est quelque chose qui est de l'ordre des photos de vacances, presque. C'est important pour vous, la postérité?
Ben ça joue pas au départ, et même aujourd'hui, ça ne joue pas là-dessus. Ça jouait sur autre chose qui, à mon avis, est plus important. C'était d'essayer de ne pas créer, par l'absence de tout document, une sorte de mythe complet qui, à mon avis, est beaucoup plus embêtant, beaucoup plus dangereux que d'avoir des rapports un peu objectifs et factuels grâce, entre autres, à la photo. Et donc, très très vite, dès que j'ai commencé à montrer, surtout à publier à la demande des magazines ou autres, des photographies, j'ai tout de suite, c'est très difficile hein, parce qu'il n'y en a pas beaucoup qui respectent ce qu'on leur demande, mais j'ai tout de suite demandé qu'on marque photo souvenir et le titre de l'œuvre, l'auteur, etc. Et photo souvenir, effectivement, parce que j'aime bien ce terme qui correspond à ce genre de choses, qui est donc une photo très simple d'un moment qui a existé et qui est là répertorié. En même temps, ça veut dire que ce souvenir, pour les gens qui n'ont pas vu l'œuvre, c'est une chose curieuse parce que c'est la photo qui va être le souvenir de quelque chose qu'ils n'ont jamais vu. Et donc, ça joue comme une histoire à tiroir sur la mémoire, sur le souvenir. Et surtout, photo-souvenir, ça veut dire aussi que c'est détaché de l'œuvre et que c'est jamais l'œuvre. Et c'est pour ça que j'ai fait quelques garde-fous qui sont toujours respectés. Il n'y a jamais de photos qui sont exposées dans un musée. Il n'y a jamais une seule photo qui est à vendre. Au plus proche de la vente, il peut y avoir des cartes postales qui restent typiquement une photo souvenir sur carte postale, une affiche, et sinon dans les livres ou les catalogues où on peut voir certains morceaux d'œuvres. Je mets toujours d'ailleurs en plus détails parce que la photo a comme inconvénient énorme, entre autres, de figer les choses par rapport à mon travail, de les détourner vraiment très fortement de ce que c'est, en rendant d'abord plus spectaculaire une œuvre qui ne l'est pas a priori et qui ensuite cadre dans la mesure où la plupart de mes œuvres ne cadrent pas. Ou du moins, le cadre doit être fait par celui qui regarde. Alors la photo a fait tout le travail.
Quand vous vous retournez, Daniel Buren, sur ces photos souvenirs et que vous regardez ces œuvres, est-ce que parfois vous avez l'envie de faire des retouches, de faire des changements ?
Sur les photos ?
Non, d'avoir des pouvoirs magiques, sur, de retourner dans le temps sur les œuvres.
Non, mais ça peut me servir justement à voir des choses que soit je ne ferai... Enfin, généralement, ça, quand c'est le cas, c'est-à-dire des choses que je ne ferai plus jamais parce que c'est pas aussi bien que je l'espérais, je le vois tout de suite. Mais des choses qui me permettent de peut-être faire autre chose qui est très différent et qui partirait de quelque chose qui se ravive dans la mémoire, ça oui. Oui.
Et pour finir cette masterclass de France Culture, Daniel Buren, est-ce que, dernière question, vous avez le sentiment qu'on progresse dans son œuvre quand on est un artiste ?
Je dirais pas qu'on progresse. Je pense que, en fait, chaque œuvre ou chaque travail est plus ou moins la possibilité de faire un autre travail. Mais rien ne dit que ce travail il progresse en quoi que ce soit. Donc le terme de progrès ne me semble pas approprié, mais que le travail, et surtout s'il est un peu acharné, ce qui est un peu mon cas, produise d'autres travaux, ça j'en suis vraiment convaincu.
Merci beaucoup Daniel Buren.
Merci à vous.
C'était la masterclass de Daniel Buren avec Anaëlle Pigeat. Coordination Arnaud Laporte, attaché de production Chouchane Djergaillant.